Entre-temps, nous avons connu des éléments d'évolution, de configuration et de personnes ministérielles, avec le talent bien français de faire changer les configurations ministérielles à chaque remaniement, même parfois un peu plus souvent. Nous n'avons plus un ministre délégué à l'économie sociale. Benoît Hamon s'était vu très rapidement en charge de la consommation, ce qui lui avait valu quelques aspects un peu contradictoires, en particulier autour de l'affaire Spanghero, découvrant avec effroi que c'était une filiale d'une coopérative qui était devenue propriétaire de Spanghero, ce qui l'avait un peu interrogé sur l'économie sociale et un certain nombre de pratiques de dérive de l'économie sociale, en particulier à travers la non-maîtrise des filiales. On a eu un épisode court, Valérie Fourneyron arrêtée pour raison de santé, puis donc un Carole Delga devenant secrétaire d'État. On a baissé un peu de titre, chargé de l'économie sociale, de la consommation, mais aussi du commerce et de l'artisanat, ce qui élargit le champ, qu'elle baptise d'économie de proximité pour lui donner un peu de cohérence, mais qui en réalité n'a pas porté par les mêmes logiques. Et puis, il faut aussi dire que Carole Delga, quelles que soient ses qualités personnelles, n'a pas dans l'organigramme politique le poids politique qu'avait Benoît Hamon. On est aussi sur des choses qui pèsent là-dedans. Et entre-temps, il y a eu les changements que vous avez suivis, puisqu'elle est rattachée au ministère de l'Économie et que son patron, qui était Arnaud Montebourg, est depuis le dernier remaniement Emmanuel Macron, qui assez symboliquement a fait sa première visite d'entreprise dans une SCOP. Donc on peut penser qu'il y a quand même un intérêt sur le sujet. On va dans la présentation, je vais vous épargner les 98 articles, parce que je crois que vous ne méritez pas ça. On va mettre l'accent sur trois points. Le champ. On va parler de quelques mesures par dispositif, et là je suis à votre disposition si vous souhaitez approfondir tel ou tel. Et puis on va parler de l'organisation territoriale. On a un peu là-dedans mis en avant ce qui, par rapport à des collectivités, était le plus utile. Alors, sur le champ, et là, on a une vraie avancée dans la loi. C'est que la loi définit l'ESS comme un mode d'entreprendre. Et on voit bien qu'on a là une définition assez intéressante, même qui, juridiquement, n'est pas simple. On sait définir par des statuts, ça, la loi sait très bien faire. Là, définir par un mode d'entreprendre, ça a été un vrai choix politique. C'est-à-dire que ce n'est pas les statuts qui sont premiers, c'est le mode d'entreprendre. Et bien sûr, un certain nombre de statuts sont par nature cohérents avec ce mode d'entreprendre. C'est le cas des quatre statuts classiques de l'économie sociale et solidaire, les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Mais on peut avoir, en utilisant des statuts autres, ceux classiques d'entreprise, SA, SARL, SAS, des entrepreneurs, des entreprises qui peuvent faire partie de l'économie sociale, sous réserve qu'elles en adoptent un certain nombre de règles d'exigence. Et parmi celles-ci, alors, ça a été un débat qui a été un des plus complexes, parce que la tendance d'un certain nombre, y compris de parlementaires, était de définir l'ESS par secteur d'activité, avec une grande focalisation sur le secteur des services à la personne. Et certains revendiquant en disant le service à la personne, dont personne ne conteste l'utilité sociale, donc est par nature dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui signifierait, si le point de vue avait été adopté, que Academia d'un côté, ou l'auto-entrepreneur qui fait ça avec ce statut, serait par nature des acteurs de l'ESS. Il a fallu, tout au long des débats, réexpliquer méthodiquement à des gens qui n'avaient pas envie de l'entendre et de le comprendre, avec derrière un lobby du patronat de classique des services à la personne, que c'était pas comme ça que ça se définissait, et donc de prendre acte que si l'économie sociale et solidaire est plus implantée dans certains secteurs d'activité, elle n'en a nulle part le monopole, et qu'à côté, en contrepartie, rien ne lui est interdit comme secteur. Ce n'est pas une analyse en termes de secteur. Ça a été un des points les plus complexes, parce qu'assez naturellement, on a tendance à assimiler l'économie sociale, en gros, avec le secteur social. Et on voit bien que dans la réalité, c'est plus complexe que cela. Quand on est une entreprise avec un statut classique, ce qu'on doit mettre dans ses statuts, dans ses règles de fonctionnement pour appartenir à l'ESS, c'est premièrement affirmer qu'on a un autre but que de partager les bénéfices. Ce qui ne veut pas dire que c'est interdit. D'abord, ce n'est pas interdit d'en faire, d'ailleurs, parce que toute structure, peut-être de l'économie sociale, si elle ne fait pas à un moment donné des bénéfices, elle meurt. Mais on peut en partager. Bah, d'ailleurs, si on ne met pas ça, on a un vrai problème avec les SCOP, parce que les salariés, quand il y a de l'excédent, ils se le partagent pour partie. Et ça fait partie du projet SCOP. Mais ce n'est pas le projet, le premier, ça ne peut pas être le but exclusif. Le deuxième, c'est d'avoir une forme de gouvernance démocratique, dans laquelle, selon le vocabulaire du développement durable, toutes les parties prenantes sont à un titre ou à un autre associées. Puis la troisième, c'est d'accepter quelque chose qui est sans doute plus fondamental quand on construit des structures d'économie sociale et solidaire, c'est le fait qu'une partie des excédents devient propriété collective de l'entreprise. Dans une société par action, rien n'appartient à l'entreprise, tout appartient aux actionnaires, qui ont donc à travers cela le droit de la démanteler. À travers cette constitution de ce qui est les réserves impartageables des coopératives ou le fonds associatif, il y a quelque chose qui n'appartient à personne d'autre qu'à l'entreprise elle-même. Et on voit bien que c'est un des points assez symboliques, puisqu'il est assez révélateur de la limite du droit de propriété absolue. Et pour reprendre les termes latins du fondement du droit de propriété, on a l'usus, on a le fructus, mais on n'a pas l'abusus à travers ça. On n'a plus le droit d'abuser de son droit de propriété puisqu'il y a une partie qui est garantie comme étant collective. Et ça fait partie des éléments assez intéressants sur le sujet. On a simultanément rénover l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui s'était perdu dans les limbes de l'administration. Plus personne ne savait qui était agréé entreprise solidaire d'utilité sociale. Il a fallu que le ministre fasse une circulaire pour qu'on lui fasse remonter les agréments qui existaient, parce qu'il en savait plus, personne n'en savait rien. On a fait de cet agrément une possibilité d'accès à l'épargne solidaire. Donc ça lui a donné un objectif, et on a introduit comme un des critères de cet agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est d'accepter une limitation de l'éventail des salaires relativement ouverte, puisque l'agrément précédent c'était de 1 à 5, ici on est passé de 1 à 10 pour le salaire le plus élevé, de 1 à 7 pour les 5 salaires les plus élevés, avec de surcroît une liste très importante d'agréments de droit, d'organismes qui sont agréés de droit sans avoir à respecter cet éventail des salaires, avec quelques lobbies organisés, dont par exemple la Croix-Rouge, qui le faisait. Avec un argument réel, c'est quand on gère un hôpital, on a forcément des médecins qui sont par nature hors de cette limitation de l'éventail, Mais la question se pose pour les gestionnaires de, la de l'association, qui a quand même par ailleurs 18 000 salariés. C'est quand même quelque chose qui est la plus grosse structure d'économie sociale, enfin la plus grosse association. Alors, une des choses qui vous concerne directement, c'est que la loi améliore les sociétés coopératives d'intérêt collectif qui résultaient du rapport Lipiès demandé par Martine Aubry et qui avait été transformé dans le quand Guy Asquette était secrétaire d'État à l'économie solidaire pour créer des structures multipartenariales dans lesquelles les collectivités locales peuvent être parties prenantes. La part fixée initialement en 2002 était de maximum pour les collectivités était de 20%. Elle est aujourd'hui montée à 50% avec clairement c'est 49,9 puisque la règle comme quoi aucun des collèges ne peut avoir à lui seul la majorité a été maintenue. Mais ça permet à une collectivité d'être partie prenante au capital d'une SIC à un niveau relativement important. Si elle veut plus de 50, il faut qu'elle fasse une SEM, qui est dans l'économie publique et plus dans l'économie sociale. Mais en tout cas, là, il y a eu un assouplissement de SIC. Il y en a eu un autre, c'est qu'on peut faire des SIC SAS qui sont plus souples en matière de gouvernance que les SA et les SARL. Ça représente en tout cas parmi les outils dont vous, dans les collectivités, pouvez utiliser, vous avez aujourd'hui une capacité d'investissement plus fort, ainsi, qui est surtout utile en période de démarrage d'un projet sur lequel la constitution du capital est souvent difficile pour un certain nombre d'acteurs. Des autres, ce qui vous concerne aussi, du moins pour ceux d'entre vous qui agissent en milieu rural, c'est la possibilité d'utiliser pour les services de la collectivité les coopératives d'utilisation de matériel agricole, mais il y a eu un long débat pour savoir quelle était la taille de l'intercommunalité qui pouvait le faire. Je vous en fais grâce sur ce sujet. Dès qu'on touche au milieu rural, on a des assemblées parlementaires passionnées par ces sujets. Les coopératives HLM qui pourront agir pour des tiers, ce qui peut être intéressant comme opérateur dans un certain nombre d'opérations un peu complexes de logement. Puis, coopérative de transport d'artisans, on a un peu assoupli le fonctionnement et permis des possibilités. Pour les mutuelles, on a, je vous conseille, il faut être très très expert pour comprendre ce qui est écrit sur les mutuelles, avec un article qui fait 3 pages sur ce sujet. En résumé, on a facilité les unions de mutuelles et on a surtout créé les conditions d'une concurrence à peu près loyale entre mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés privées d'assurance. C'est, alors après, traduire ça en termes de loi, ça donne des choses effroyables. Un élément qui va vous concerner, la loi a prévu à légaliser une situation qui posait problème. C'est celle des administrateurs d'une société mutuelle d'assurance, par ailleurs élus locaux. Et ça visait très clairement la situation de la SMAC, où les administrateurs de la SMAC, Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales, étaient des élus locaux. Et quand leur société, leur collectivité était assurée à la SMAC, ça pouvait poser une question de conflit d'intérêts. Donc, ce point est maintenant traité par la loi. La SMAC a fait son travail de lobbying pour définir un peu un statut qui lui permet de fonctionner. C'est aussi révélateur de ce fonctionnement un peu complexe de la loi.